Bonjour à tous. Oui, divine parole, ta clarté console. Oui, eh bien, que le Seigneur m'aide. Oui, Seigneur, aide-moi à ce que ta parole soit bien claire. Seigneur, aide-moi à ne pas obscurcir et assombrir ta parole, mais qu'elle soit bien claire pour chacun de nous, pour moi-même, que ta parole nous renouvelle, nous fortifie, nous console, Seigneur, que ta parole fasse son œuvre en nous, par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'ai mis le titre de ce message, le combat et l'armure du chrétien. Donc pour cela, nous allons prendre les passages dans l'Épître aux Éphésiens que nous avons lu récemment. Éphésiens au chapitre 6, du verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Frères et sœurs, le premier dimanche de ce mois et la semaine passée aussi, nous avons pensé à nos frères et sœurs persécutés. Ceux qui veulent vivre simplement leur foi et leur confiance en Dieu, mais à qui les religions ou les régimes en place refusent ce droit. Pourquoi tant de méchanceté, tant de haine? Le Seigneur Jésus n'avait rien fait de mal, il n'avait fait que du bien, guérissant les malades, ressuscitant des morts, annonçant l'amour et la paix. Mais les hommes l'ont rejeté et crucifié. Jésus avait dit à ses disciples en Jean 15, 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Jésus n'a pas donné de faux espoirs à ses disciples. Il leur a parlé avec vérité. À sa suite, les apôtres, après avoir évangélisé différentes villes, sont retournés pour fortifier les nouveaux disciples. En Actes 14, 22, et les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il confirmait donc ainsi que les chrétiens n'allaient pas être exemptés de souffrances. Il y a des pays où la persécution est très dure. En France et en Europe, nous bénéficions d'une certaine liberté de conscience et de foi, mais cette liberté est relative et fragile. Tant que l'on n'affiche pas trop notre foi, la tolérance est de mise. Mais si vous voulez simplement témoigner de votre foi en Jésus auprès de vos collègues, de vos voisins, de vos amis, et même de votre famille parfois, les réactions peuvent être très variables. Refus poli, moquerie, opposition caractérisée, mise à l'écart et quelquefois même rupture de relations définitives. La tolérance affichée peut vite se transformer en intolérance. Cela ne doit pas nous étonner, cela confirme ce que Paul écrivait à Timothée dans sa deuxième épître à Timothée au chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, cela peut faire peur à ceux qui hésitent de s'engager à suivre Jésus. Or, Jésus, en parlant avec vérité à ses disciples, ne voulait pas leur faire peur. Il voulait qu'ils soient en paix. En Jean 16, 33, il dit : Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est en Jésus que nous pouvons être en paix, quelles que soient les réactions de notre entourage. On ne se répétera jamais trop cette affirmation de Jésus en Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans la lecture que nous avons faite au début, il est parlé de combat et d'armes. Je ne suis pas particulièrement belliqueux. Je n'aime pas trop les combats. Les chrétiens ne sont pas des va-t-en-guerre qui veulent créer des rébellions, des séditions, etc. D'autant que Jésus a enseigné, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. En Matthieu 5, 39. Et dans les Proverbes, nous lisons « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. » S'il y a effectivement un combat à mener, Paul nous dit de ne pas nous tromper de combat, de ne pas nous tromper d'ennemi. Au verset 12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » C'est-à-dire que nous n'avons pas à combattre des hommes, des êtres faits de chair et de sang. L'apôtre veut nous ouvrir les yeux sur une réalité qui nous est invisible. Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes, des dominations, des autorités, des princes du monde de ténèbres. Notre monde rationnel semble les ignorer. Ils agitent le monde, ils incitent les hommes à se combattre et veulent particulièrement faire tomber ceux qui confessent le nom de Jésus. Il ne s'agit pas de peindre un tableau terrifiant pour faire peur aux hommes. Ça n'a jamais été ma vision des choses non plus. Car nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes face aux démons et au diable. Paul dit au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Jésus a vaincu le monde, mais il a aussi résisté au diable et il l'a vaincu à la croix. Et il nous donne ses armes, les armes de Dieu, pas les nôtres, mais celles de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'avoir peur, mais il s'agit de se prémunir contre les attaques de l'ennemi de nos âmes. Paul aux Colossiens, donc, au chapitre 2, verset 15, dit de Jésus, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Nous sommes faibles face à la puissance du diable. Si nous combattons sans armure, c'est-à-dire en comptant sur nos propres forces, nous serons vaincus. Cela a été le cas pour Pierre au moment où le Fils de Dieu a été livré pour être jugé et crucifié. Pierre se croyait fort, mais il a renié son Seigneur. Ne nous croyons pas plus forts que Pierre, mais utilisons les armes que Dieu nous donne pour résister. Et Pierre lui-même nous a dit dans sa première lettre au chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » En nous parlant de ceinture, de cuirasse, de chaussures, de boucliers, de casques et d'épées, l'apôtre emploie un langage imagé, car ce combat est spirituel, mais bien réel. La ceinture qui entoure et protège les reins, c'est la vérité. À propos de vérité, dans Jean 18, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? Où est la vérité dans ce monde de menteurs, guidé par le prince de ce monde, le diable. Jésus disait aux responsables religieux juifs, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Un chrétien, donc, s'il ne veut pas être dominé par le diable, ne doit pas mentir. Les proverbes nous disent, au chapitre 12, « La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. » Et Paul, dans cette lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, nous dit « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Et plus loin, au verset 27, il dit « Et ne donnez pas accès au diable. » Les mensonges des hommes ne trompent que les hommes, mais pas Dieu. Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 8, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Le rôle du chrétien est de témoigner pour la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Jean 14, 16, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si notre ceinture de vérité, c'est Jésus, alors nous ne craindrons pas les mensonges du diable. La cuirasse de la justice. Ce n'est pas non plus notre propre justice, puisque nous devons nous en revêtir. Dans Hébreux, au chapitre 11, verset 7, il nous est dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » La justice qui nous couvre, c'est la justice que Dieu nous accorde à cause du sacrifice de son Fils. Paul dit aux Galates, chapitre 2, verset 16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Et en Éphésiens, au chapitre 4, Paul dit que nous avons été instruits à nous revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est Dieu qui produit cette justice et cette sainteté à cause du sacrifice de Jésus. C'est cela que nous devons revêtir. Dans ces conditions, le diable ne peut rien contre nous, puisque c'est Dieu lui-même qui nous justifie et nous crée de nouveau juste et saint. Alors les chaussures qui représentent le zèle, l'annonce de l'évangile de paix doit être pour chacun une motivation. Annoncer le salut de Dieu nous réjouit quand nous le faisons. Si nous avons ce zèle à nos pieds, les difficultés du chemin seront supportées. Vous avez déjà entendu des personnes dire qu'elles allaient faire la grève du zèle. Faire le travail, mais pas plus. Ne soyons pas des chrétiens qui font la grève du zèle pour l'annonce de l'Évangile. Ésaïe nous dit, vous connaissez ce passage dans le chapitre 52, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est une belle mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Qui le fera encore dans cette société ? Paul dit aux Romains, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alors le bouclier de la foi. Le bouclier est une arme défensive. Car le malin attaque, il lance des flèches, et même des flèches enflammées. Le bouclier permet de les arrêter. La foi en Dieu, en sa parole, en ses promesses, nous sert de bouclier pour arrêter les attaques du diable. Dieu lui-même est notre bouclier. C'est ce que nous lisons dans le psaume 91, versets 1 à 7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le bouclier est une arme portable et transportable. Ce n'est pas un blocos. Il ne nous faut pas une foi extraordinaire. Il ne nous faut qu'une foi simple et confiante en Dieu. Une foi transportable partout où nous sommes, en toutes circonstances. Le casque du salut. Le psaume 140 nous dit « Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. » La tête est le centre de commandement de notre corps. C'est aussi le siège de nos pensées. Nous avons lu que le diable est menteur. Il essaye de nous atteindre au niveau de la pensée. Il fait comme il a fait avec Adam et Ève. Il sème le doute. Dieu a-t-il réellement dit ? Ou alors, tu penses que Dieu s'intéresse à toi ? Parmi 7 milliards d'individus ? Tu penses qu'il peut t'aimer, toi ? Ou alors encore, tu n'en fais pas assez pour gagner ton salut ? Ou encore, tu n'es pas assez parfait ? Etc., etc., etc. Tout le monde connaît ces idées noires qui peuvent nous envahir, ou ce mépris de nous-mêmes qui peut nous faire douter de l'amour du Seigneur. Mais c'est là que nous devons mettre le casque du salut, pour que l'adversaire ne puisse pas interférer dans nos pensées. Il faut garder précieusement et réaffirmer les bases de notre salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire moi aussi, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut encore réaffirmer devant le diable. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce salut, c'est Dieu qui l'accorde à notre foi. Il ne doit pas être remis en question. Mettons bien sur notre tête ce casque du salut. Jacques dit au chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'esprit, ce n'est pas notre raisonnement, notre intelligence qui nous permettrait de combattre les faux enseignements, les philosophies humaines. L'esprit, avec un E majuscule, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous rappelle la parole de Dieu, la parole de Christ. Jean 14, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La parole de Dieu que nous avons tous dans nos Bibles est l'arme offensive qui nous permet de gagner le combat. Je terminerai par ce passage de Hébreux 4, 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il faut prendre la parole de Dieu telle qu'elle est et ne pas y ajouter nos raisonnements. Ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casque et épée, puissions-nous revêtir et utiliser ces armes avec l'aide du Saint-Esprit pour poursuivre le combat de la foi jusqu'à la fin de notre vie. Amen.